Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Et vous êtes bien sûr Divergence FM 93.9. Alors, en ce moment, c'est le bazar dans les librairies, hein, c'est les fêtes. Alors, il y a des livres partout, il y a des lecteurs partout dans les librairies, et c'est le bazar à lecture par tous. Il y a plein de lecteurs autour de la table qui vont partager avec vous leurs enthousiasmes, leurs lectures, partager avec vous, puis vous donner envie peut-être d'aller chercher ces livres, d'aller trouver ces livres, de vous les offrir. Alors, du neuf, de l'occasion, du théâtre, de la BD. Donc, je ne sais pas s'il y a du théâtre, je crois qu'il n'y en a pas, j'ai mal démarré. Des romans, des biographies, de la poésie. Il va y avoir un petit peu de tout. Alors, autour de la table, quand même, les présenter. Françoise, bonjour Françoise.
Bonjour.
Claudine.
Bonjour.
Hélène.
Bonjour.
Et Pierre.
Bonjour.
Et Marc qui est en train de vous causer. Alors, qui commence à parler de quelque chose qui lui a plu, qu'il a aimé? Pierre, je te sens tout feu, tout flamme. Alors, vas nous causer poésie pour démarrer.
Oui, effectivement, je suis tout peu, tout peu. Non.
Pas tout peu, mais peu, beaucoup peu. Tout flamme, voilà.
Vraiment pas peu, tout feu, tout flamme, parce que, en fait, j'ai découvert une poète qui est Lily Frick. Et voilà, c'est tout à fait extraordinaire. Moi, j'ai tout de suite pensé à Rimbaud.
Et quand même.
Oui, oui, carrément. Et il se trouve qu'elle a été... en fait, je l'ai entendue à 7, au Festival Voix Vive. Et après, je suis allé acheter l'un de ses livres. Et il se trouve que j'ai vu qu'il était préfacé par Alain Borer. Donc pour ceux qui lisent, les fans de poésie, on connaît Alain Borer est le grand spécialiste de Rimbaud. C'est assez bizarre d'ailleurs de dire spécialiste de Rimbaud, mais il est à la hauteur. J'avais lu il y a une dizaine d'années son Rimbaud en Abyssinie. Et c'est magnifique, ce qui est très difficile, écrire sur Rimbaud, c'est une gageure.
Alors, revenons à la poète dont tu veux nous parler, est montpelliéraine, tu nous disais.
Oui, elle est montpelliéraine, oui. Alors donc, elle a tout d'abord sorti un album de chansons, il y a déjà quelques années, qui a eu tout de suite le choc dans le monde de la musique. Et actuellement, elle publie des recueils de poésie.
Alors, tu dis chansons. On va peut-être entendre un tout petit morceau de son album.
Alors là, c'est ce que j'ai apporté. C'est de la poésie. Donc, c'est son premier recueil qui s'appelle Bleu, ciel non compris.
Dans l'underground, je demande mon chemin. Sorry, I'm French, I'm lost. Could you help me, please? Et je m'arrête. Je n'écoute pas la réponse. C'était dans une autre langue que je posais la question, ni anglaise, ni française, d'aucun pays. J'étais où? Peut-être encore dans l'underground, à Londres, ou dans un taxi à New York, ou sur le sable, n'importe où. Il était peut-être 16h22 quelque part. La foule continuait. Elle ne m'emportait pas. Je comprenais bien sûr ce qui arrivait.
Alors, donc, Pierre, c'était...
Alors, c'était Bleu. Le titre complet étant « Bleu, ciel non compris », qui est sorti en 2012 aux éditions Gros Texte. Depuis, elle a publié « Carnet sans bord » et tout récemment « Tôle froissée ».
Alors, on sait, c'est étonnant, c'est une voix qui rappelle celle de Jane Birkin, Hein, cette espèce de fragilité dans la voix. Et puis bon, en plus, il y a la langue anglaise qui fait ça. Et moi, l'image qui m'est venue tout de suite en entendant cette voix et ce texte, c'était pas Jean Birkin, c'est Jean Seberg qui était dans le film de Godard. C'était à bout de souffle, je crois, où elle est sur les Champs-Élysées en train de vendre le New York Herald Tribune. Voilà, ça m'a fait venir cette image. Et je vois que d'autres, Françoise, disent oui, effectivement.
C'est quoi, dégueulasse.
Oui, voilà, absolument. Hein, avec
Mais
Belmondo.
Pour revenir, enfin, est-ce que je peux vous lire un poème de
court, parce qu'on a tellement de livres sur la table. Oui.
Donc je suis désolé hein, parce que c'est pas, je n'ai pas sa voix.
T'as pas sa voix, non, c'est pas le même timbre.
Sa diction. Je veux la boue, être et ne pas, mais la boue. Je veux sentir le souffle libre d'effet, de surface. Je veux le sentir passer. Je veux le sentir sortir. Je veux le sentir dégager. J'oublie. J'oublie l'appel incessant à trouver une autre clé, une nouvelle clé pour les mêmes murs. Je viens sentir d'être là, sentir d'être inespéré. Sentir d'être monstre, je suis monstre, monstre fragile, illimité. Je ne veux plus rien mettre, aucune forme ne va. Je veux sentir l'humidité et la chaleur libre de cours, de performance. Je veux la boue. Je ne veux pas la statue.
Merci Pierre d'avoir prêté ta voix à cette poète. Alors poète ou poétesse, qu'est-ce qu'il faut dire ?
Elle se revendique comme poète.
Poète, pas de féminin donc pour poète, ça reste générique. Alors, Françoise, qu'est-ce que tu nous proposes ? Tu as plein de livres. Alors, je vois, il y a de la poésie dessus. Poète argentin, Juan Gelman. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ta
pile ? Alors, j'ai un petit livre. Quand tu as demandé les livres qui nous avaient marqués.
Oui, absolument.
Donc, un petit livre que j'ai découvert par hasard, il y a très longtemps, qui a été publié en 2001, qui est d'un auteur français, un romancier qui s'appelle Didier Goupil. Je ne sais pas s'il a publié autre chose depuis, je n'en sais rien. Mais ce livre, ça a été quelque chose qui, depuis que je l'ai lu, me poursuit. C'est l'histoire d'une dame qui va avoir 100 ans, qui vit dans un palace au Ritz, à Paris, qui est seule, qui est diaphane, qui se promène dans Paris, on dirait une apparition, et elle rentre le soir, elle prend des bains chauds, et sa nièce l'appelle tous les soirs, et elle va avoir 100 ans. Et petit à petit, on découvre qu'elle a son matricule qui est gravé sur sa main. Donc elle a été à Auschwitz, qu'elle a eu la chance d'en réchapper, mais qu'elle a traversé ce siècle un petit peu comme une ombre. Et elle va fêter ses 100 ans seule au Ritz en prenant un bain. Alors c'est quelque chose à la fois... C'est un tout petit livre, hein. Il y a à peine une centaine de pages. Le format est petit, ça avait été publié au Serpent à plumes dans la collection Motifs, ça s'appelle Femmes du monde. Et en fait, c'est à travers ce récit, c'est toute une époque qui surgit. Et puis, il y a l'atmosphère de Paris qui est assez extraordinaire. C'est l'automne, les feuilles tombent. Enfin, il y a toute une ambiance... poétique, nostalgique, à la fois très dure, mais la dureté fin, de l'époque, elle est en arrière-fond, hein, on ne la sent pas exactement. C'est vraiment une belle écriture et donc c'est un petit livre que j'ai toujours avec moi et que je relis de temps en temps.
Un petit Alors, format aisément transportable,
absolument.
Dans lequel on peut se replonger quelques heures.
Alors je ne sais pas si on le trouve encore facilement.
On trouve facilement. Alors nous encourageons nos auditeurs qui sont peut-être des lecteurs. Il y a des librairies d'occasion dans lesquelles vous pouvez rentrer. Et puis sur Internet, l'occasion, ça marche très fort. Hein. Il y a un tas de sites où on peut trouver des livres totalement épuisés ailleurs. C'est un des avantages d'Internet, je trouve, pour commander des livres, parce que moi, le nombre de fois où j'ai pu obtenir des livres qui étaient devenus totalement introuvables, alors ils arrivent de l'autre bout de la France, mais on alors, les a après dans sa bibliothèque.
Marc, moi, je boycotte Amazon et je commande, j'ai aucune action chez eux, je commande chez Momox.
Oui, donc voilà, il y en a plein. Hein. On n'est pas obligé de passer par les GAFAM.
Merci.
Alors, Serpent un plume, un éditeur sur lequel moi, j'ai envie d'attirer l'attention, parce que ce que tu dis de ce livre, ça me semble bien dans la tonalité de ce que publie le Serpent à plume. Des choses assez discrètes, mais en même temps avec de fortes résonances pour les lecteurs. Donc, ils font un beau travail.
C'est vraiment un très, très beau livre.
Donc, Didier Goupil.
Femme du monde.
Femme du monde au serpent à plumes. Hélène qui attend patiemment son tour. Alors, que nous propose... Alors, excusez-moi, je le dis pour notre réalisateur. Je tutoie les gens qui sont autour de la table parce que nous nous connaissons. Mais restez avec nous, les auditeurs. On parle aussi à vous. Alors, Hélène.
Je vous emmène découvrir des images coquines qui avait été offerte à ma fille cadette pour ses 7 ans par son grand-oncle.
Alors, un peu de littérature jeunesse, c'est bien. Il ne faut pas oublier les enfants en cette période, c'est vrai.
Les images ont été choisies par deux auteurs, donc Alain Lesseau, deux Français. Alain Lesseau, directeur artistique du magazine Lui, dans une première vie, et qui s'est ensuite orienté un peu différemment. Et puis Grégoire Solotareff, qui est dessinateur et plasticien français également, très connu pour sa série d'albums Loulou, sur le thème du loup.
Oui, voilà, des albums qui ont marqué beaucoup d'enfants, qui sont publiés à l'école des loisirs.
Exactement. Alors, il ne s'agit pas d'aller voir le loup, il n'y a pas que des images coquines. Par exemple, j'ouvre page 16. Je vous dirai le titre du livre à la fin, c'est un petit pavé carré, assez épais. Page 16, des asperges. Bon, là, on les voit parfaitement, on comprend ce que c'est la botte d'asperges d'Edouard Manet, dans de beaux tons ivoire, la botte est ficelée, elle est posée sur quelque chose, un lit vert foncé, qui peut être des feuilles ou peut-être une serviette. Parce que c'est malgré tout le détail d'un tableau. Je tourne la page, j'ai des assiettes. C'est le détail d'un tableau de Murillo qui s'intitule « La cuisine des anges » et qui date du XVIIe. Je ne vois ni cuisine ni ange, mais je vois un bras avec un beau drapé qui tient une assiette et dans l'autre main, il y a également une pile d'assiettes. On ne voit ni les personnages, ni leur tête, ni la cuisine, mais on voit les assiettes creuses qui s'empilent. Et puis, je saute à la page 50, et là, je vois une botte. Ça s'intitule « Une botte ». Sur la page de gauche, il y a le titre, et sur la page de droite, donc, le tableau, ou du moins un cadrage d'un détail du tableau. Ici, ça n'est pas la botte d'asperge, c'est la botte d'un cavalier. On ne voit pas le cavalier, c'est le portrait équestre du comte Duc d'Olivares. On ne voit pas
qui n'était pas forcément une asperge.
Je ne sais pas parce qu'on ne le voit pas, mais dans un très beau camailleux de brun, de beige, de marron, on voit le flanc du cheval, la botte, l'étrier et l'éperon.
Donc on a, dans ce que tu nous dis, on revisite les tableaux, on revisite l'histoire de l'art. Enfin,
exactement.
Par le détail, regardez le détail, il y a souvent des tableaux dans le tableau. Quoi,
on revisite et on redécouvre. Par exemple, la page « Une bague », je vois une main très blanche, très belle, qui tient un anneau avec quelque chose qui semble être un saphir et qui serait l'anneau de fiançailles qu'Henri IV avait donné à sa maîtresse, Gabrielle d'Étré. Le tableau lui-même représente Gabrielle d'Étré et l'une de ses sœurs, encore qu'on n'en soit pas absolument sûr. Il est de la fin du XVIe siècle et il est anonyme. Je n'avais jamais remarqué dans ce tableau, qui est célèbre à d'autres titres, je n'avais jamais remarqué que Gabrielle d'Étré tenait une bague entre deux doigts.
Alors, je me dis, c'est intéressant parce qu'on peut, en faire un jeu, c'est-à-dire pour les amateurs de peinture. Ah, petit détail de tableau, est-ce que vous reconnaissez le tableau dont est extrait ce détail? Ah. Et il y a de quoi passer des soirées avec ça.
Tout à fait. Et les auteurs ont joué particulièrement avec certains tableaux dont on trouve plusieurs détails. Ici, j'ai une boucle d'oreille. Une très belle perle baroque avec un reflet dedans. Je pense que c'est une perle baroque. Une petite attache en or, une jolie petite oreille bien ourlée et rien d'autre. Et c'est encore l'école de Fontainebleau, Gabrielle Détré et l'une de ses sœurs.
Bien, alors on va, voilà, on va évoquer le titre. Alors ça s'appelle Petit Musée. Hein, donc on a toute une série de tableaux, tu nous en as... Voilà, on a quelques exemples. Alors, Hélène est en train de nous montrer des tableaux. Ah, est-ce que vous savez d'où ça vient? Voilà, on commence le petit jeu qu'on évoquait. Alors, qui est-ce qui édite ce...
C'est l'École des loisirs.
C'est l'École des loisirs. Bien entendu.
Ce que je vous montrais, c'était une des images coquines, c'est-à-dire la poitrine. Et donc, ça s'intitule Une poitrine. Et c'est toujours, là, on est beaucoup plus loin, on est page 242, c'est toujours la poitrine. Poitrine de Gabrielle Détré.
Décidément, le même tableau fait.
Je me trompe, c'est sa sœur, parce que ce n'est pas.
Histoire de famille.
Voilà, ce n'est pas la poitrine de Gabrielle, puisqu'on a tout à la fin, page 280, sous l'intitulé Un téton, on a effectivement la main de la sœur de la maîtresse d'Henri IV qui tient délicatement le téton de Gabrielle Détré, entre ses deux doigts.
Et là, je vois quelques auditeurs qui disent « Ah, d'accord, ça y est, je vois le tableau dont il s'agit. »
Voilà.
cette position de cette main a rendu le tableau immédiatement identifiable.
Très fameux, très célèbre, très érotique, mais il paraît, parce que je suis allée quand même un peu me documenter, il paraît qu'en fait, ça signifie simplement qu'elle était enceinte des œuvres d'Henri IV et qu'elle était soit en train d'allaiter, soit sur le point d'accoucher et d'allaiter. Et comme on le sait, après, elle a été, la malheureuse, empoisonnée. Donc, tout au long de ce petit bouquin, on a une chaise, des asperges, une poitrine, un coq, des cheveux, tous extraits de tableaux plus ou moins fameux.
Voilà. Donc, ça s'appelle Petit Musée, c'est à l'École des loisirs, l'éditeur que tous les parents devraient connaître. Claudine, alors, tu me disais tout à l'heure, tu nous disais ça des biographies, tu vas nous présenter, ou alors tu as autre chose?
Je commence par autre chose.
Allez.
Donc,
vas-y.
Je vous emmène en Amérique latine.
Oui.
Donc, le livre s'appelle « El país de las mujeres » en espagnol, puisqu'il n'existe pas en français. « Le pays des femmes ». C'est une amie argentine qui me l'a offert. Et voilà, donc l'auteur, c'est une auteure, une poétesse nicaraguayenne qui a écrit beaucoup de poèmes et qui était aussi une femme engagée dans la lutte politique à l'époque. Et vous verrez que ça a son importance dans l'histoire. Donc ce roman a été publié en Espagne, enfin en espagnol en tout cas, en 2010. Bon, c'est l'histoire d'une femme qui crée un parti féministe et devient la présidente d'un pays en Amérique latine. Alors, c'est pas très facile.
On va dire, on voit qu'on est dans la politique fiction alors.
Voilà. Parce que mais comme je vous disais...
Une femme présidente en Amérique latine,
Il y en a eu.
Il y en a eu quand même.
Il
n'y en a pas eu beaucoup quand même.
Il y en a eu. Mais là, l'originalité, c'est qu'elle a créé un parti féministe pour arriver au pouvoir. Elle annonce la couleur. Hein, ils annoncent la couleur. Le parti s'appelle le PIE, Partido de la Izquierda Erótica. Donc avec une revendication féminine et...
Traduction pour les non-hispanisants qui sont à l'écoute.
Voilà, c'est le parti de la gauche érotique que certains ont appelé d'ailleurs en français parti de l'insoumission érotique. J'ai vu dans des articles. Mais ça veut aussi dire le pied, comme en français. Et c'est-à-dire le pied pour montrer les femmes qui marchent et qui avancent. Symbole connu, bien évidemment. Donc, ce pied d'ailleurs, c'est celui qu'elles mettent sur leur drapeau. Mais ce n'est pas n'importe quel pied, c'est un pied féminin avec les ongles rouges, peints en rouge. Et la campagne qu'elles vont mener, justement, file la métaphore, puisqu'elles vont s'adresser aux femmes en allant chez elles et à leur proposer de présenter leur programme tout en leur faisant la manucure des pieds. La façon de rencontrer des femmes.
Et de diriger un pays, apparemment.
Alors ça, c'est au départ. Hein. Alors après, bon, quel est leur programme ? Eh bien, c'est un pays miné par la violence, par la corruption. Et elles disent, ben voilà, les femmes, elles vont prendre les choses en main. Elles savent très bien gérer leur maison, s'occuper de tout ce qui est important dans une famille, l'éducation, le bien-être, etc. Pourquoi ? Dans la mesure où les hommes n'ont pas réussi à faire une politique correcte pour le pays, les femmes peuvent essayer à leur tour. Alors elles vont prendre... c'est pas facile de changer les comportements. Donc elles vont arriver au pouvoir, elles vont gagner les élections. Mais c'est pas facile de changer les comportements. C'est une société profondément machiste, les hommes sont encore présents partout. Et elle va prendre des mesures très radicales, dont une qui va être vraiment... assez mal perçue, elle va dire, ben voilà, les femmes, il n'y a plus que des femmes dans l'administration. Du chef de la police au chauffeur, que des femmes.
Alors, si vous voulez savoir ce que ça va donner, il va falloir vous procurer le livre, vous mettre à l'espagnol, parce que donc ce n'est pas traduit actuellement. Voilà. Tu te l'es traduit pour toi, à titre personnel ?
Non, moi je l'ai lu en espagnol, mais voilà. J'ai voulu le faire partager, et comme je n'ai pas trouvé de version française, j'ai commencé à regarder comment le faire connaître en donnant envie, justement. J'ai traduit des extraits.
Avis aux éditeurs, il y a une traduction toute prête qui vous attend.
Alors, je voulais juste dire...
On peut le dire, tu as fait ce beau travail.
Oui.
Et tu ne serais pas mécontente si un éditeur était intéressé.
Tout à fait. Alors, je voudrais juste rajouter que, évidemment, on peut dire que c'est... une nouvelle, un manifeste féministe, c'est une nouvelle, voilà, une forme. Mais pour moi, c'est aussi une sorte de conte, parce qu'il y a un ton. Il y a un ton faussement naïf. Il y a de l'humour, c'est drôle. Elles inventent des choses. C'est très culotté. C'est le mot que je pense qui décrit le mieux cette histoire. C'est culotté.
Voilà. Alors, on va rappeler l'auteur et le titre, parce qu'on peut se procurer ça via Internet, ou si Barcelone n'est pas très loin. Et puis, il y a quelques librairies de Montpellier où vous pouvez commander des livres en espagnol.
Voilà, on peut le commander sur Internet. Moi, je l'ai racheté sur Internet pour l'offrir. Donc, l'auteur Gioconda Belli, qui a beaucoup publié, mais qui est très peu traduite en français.
D'accord.
Donc, son nom de famille est Belli.
Belli.
B-E-2-L-I.
B-E-2-L-I. Ça a été publié par Sexbaral, je crois, en Espagne.
Sexbaral, oui, qui est un des grands éditeurs espagnols.
Et c'est sorti en 2010, je crois.
Et c'est El País de las Mujeres.
Le pays des femmes.
Le pays des femmes. Tout un programme. Alors, un peu de littérature espagnole. Tiens, moi, on est avec l'Espagne. Je vais vous parler d'un... Françoise le sourit en le voyant, d'un livre, un roman noir assez extraordinaire, d'un auteur galicien, hein, mais qui écrivait en galicien la plupart de ses livres. Ça, c'était le premier qu'il a écrit en espagnol. Il s'appelle Aníbal Malvar. Et ce livre, c'est La Ballade des Misérables. Alors, La Ballade des Misérables, je ne vais pas faire un résumé, c'est trop compliqué, il se passe tellement de choses. Mais c'est une écriture baroque, complètement baroque. Qui n'hésite pas à aller dans des folies, qui fait parler ses personnages, mais qui fait parler le bouton d'un uniforme, qui fait parler différents objets. On est à Madrid. On est à Madrid et dans une communauté gitane, y a des enfants qui disparaissent mystérieusement. Un policier va essayer d'enquêter, mais bon, les policiers madrilènes ne sont pas terribles. Alors c'est plutôt un de la communauté qui va lui-même enquêter. Et une enquête qui va être complètement folle, qui va nous amener dans des choses étonnantes, avec des scènes grandioses. On a une poursuite notamment sur une immense montagne d'ordures qui... Voilà, déjà vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis, on a une scène finale où les gitans envahissent les rues de Madrid pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Aníbal Malvar, La Ballade des Misérables, un grand, grand roman, totalement atypique, mais extraordinaire. Françoise, tu voulais réagir sur Hannibal Malval ?
C'est une écriture extraordinaire, hein, avec voilà. des points de vue différents et une langue...
Et un plaisir de l'écrivain qui s'amuse et puis et du lecteur qui lit, on se régale, comme on dit chez nous. Alors il y a plein de choses sur la table, je vous ai dit amenez, on n'aura pas le temps de parler de tout, alors il faudra se faire beaucoup plus bref. Allez, qui nous parle d'un dernier, alors quelque chose d'un petit peu différent qu'on n'a pas encore vu ? Alors, ah bah oui, alors ça c'est un livre dont on a beaucoup parlé il y a quelque temps. Je pense que c'est bien d'en parler aussi pour l'éditeur. Erwan Larreur, Françoise, tu nous as apporté
en fait,
le livre que je ne voulais pas écrire.
Oui. Alors c'est un livre qui a été publié en septembre 2017 d'un écrivain qui a une quarantaine d'années à peu près, qui a écrit d'autres livres auparavant. Notamment un que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Marguerite n'aimait pas ses fesses. Et celui-là.
On peut dire qu'Erwan Larreur a l'art des titres. Marguerite n'aimait pas ses fesses. Le livre que je ne voulais pas écrire. Bon.
Et celui-là, donc, qui est publié aux éditions Kidam, hein, qui fait un très beau travail d'édition. Il raconte une histoire qu'il ne voulait pas raconter. Et ce sont ses amis qui lui ont dit que comme il était écrivain, il devait absolument écrire ce livre.
Et quelle est cette histoire donc ?
Alors en fait, il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Hein. Il est passionné de hard rock et donc il était au Bataclan le 13 novembre 2015. Et il a eu la chance de s'en sortir. Hein. Et il raconte donc ce qui lui est arrivé, mais sans vraiment parler de lui. Hein. Et il fait intervenir toutes les voix de ses amis, parce qu'il a passé, il est resté plusieurs heures donc, sous des cadavres, hein, c'est comme ça qu'il s'en est sorti, à entendre des téléphones portables qui sonnaient. Et donc il fait entendre les voix de ses amis qui cherchaient à l'appeler, hein, parce que quand il était encore au Bataclan. Et donc, on entend l'inquiétude des amis à travers leur voix, ce qu'ils disent, et puis sa reconstruction à lui. Mais c'est extrêmement sobre. Hein. Mmh. Il n'y a aucun pathos, beaucoup d'humour. Hein. Et c'est vraiment un livre très fort, hein, avec une écriture qui parle. Et ça n'est pas un livre triste.
Non, du tout, du tout. C'est vrai, c'est profondément humain. C'est ce que tu dis, de l'humour, d'une certaine discrétion. Voilà, il s'efface derrière les événements et derrière les réactions autour de lui. Il s'intéresse plus à ce qui se passe autour de lui qu'à sa petite personne. Et non, c'est un livre dont on a beaucoup parlé... quand il est sorti, qui n'a pas forcément occupé le devant de la scène médiatique, mais qui a eu un succès d'estime, comme on va dire, parmi les lecteurs, les critiques et tout. Et on peut recommander, mais alors...
Ah oui, absolument. Et alors, sur la couverture...
De nos deux voix, à minima.
Oui. Et puis, sur la couverture, il y a sa paire de Santiago, parce que ce qui l'a obsédé pendant... tout le temps, hein, où il était...
Où sont passés
mes Santiago. Et alors, il fait écho, ce livre, à un livre que je suis en train de lire et qui est un très beau livre et qui est extrêmement différent, qui a eu le prix Fémina, là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est le livre de Philippe Lançon, qui s'appelle Le Lambeau, qui est une écriture extrêmement pointilliste sur... il parle de... Lui, il était donc à Charlie Hebdo, hein, et il s'en est sorti, mais avec blessé, le visage, un tiers du visage qu'il fallait reconstruire. Et il parle de ce qui s'est passé avant et toute sa reconstruction. C'est une très, très belle écriture et qui fait un peu écho au livre d'Erwan Larreur.
Très bien. Alors, ça, c'est Le Lambeau, Philippe Lançon, c'est chez Gallimard. Voilà, c'est pas fini, on n'a pas le temps de tout parler. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à vous parler de nos lectures. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Partant, tout le monde est partant. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt et merci Bruno pour la prise de son.
Merci Bruno.
Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.